Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Et aujourd'hui, moi je vous propose d'écouter une émission qui est passionnante, qui s'appelle « Prendre la parole, donner la voix, la radio comme outil de lutte féministe ». Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter un épisode d'une série passionnante qui s'appelle Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures. Alors une série qui passionnera les féministes radiophiles et toutes les autres personnes qui s'intéressent aussi à la radio comme outil d'expression des luttes et outil de mémoire. Alors ce que vous allez écouter, c'est l'épisode 5 de cette série qui s'appelle Prendre la parole, donner la voix, la radio comme outil de lutte féministe. Alors Radio Pleine Lune, nous à Marseille, on ne connaît pas forcément. C'est une émission de radio féministe qui était née à la fin des années 1970 et qui était toutes les semaines pendant 20 ans sur les ondes de Radio Zone. Et les archives contestataires de Genève ont conservé les archives de cette émission sous la forme de 300 cassettes audio déposées par les animatrices. Et en 2021, il y a eu en fait l'envie de reprendre ces cassettes, de les numériser. C'était quand même 350 heures d'archives sonores, de les décrire, de les rendre disponibles à l'écoute via Internet. Donc on peut les retrouver sur Internet si on va sur les archives contestataires. Et puis au-delà de ce gros travail d'archives, il y a eu un projet de valorisation de ces archives pour qu'on les écoute aussi. C'est pas tout de les retrouver, les numériser, il faut aussi pouvoir les écouter et les remettre en perspective. Et donc il y a eu 4 équipes qui ont chacune créé un podcast à partir de ces archives. Voilà, donc là vous allez écouter l'épisode 5. Prendre la parole, donner de la voix, la radio comme outil de lutte féministe. Et si vous avez envie d'en savoir plus, et ben vous pouvez aller sur le site archivescontestataires.ch, tout ça c'est au pluriel, et regarder un peu cette série Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures. Bonne écoute.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de voir cette salle aussi remplie pour cette table ronde co-organisée par les archives contestataires et par l'Estime. Soirée qui va clore le cycle Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures que je vais présenter dans un instant. Alors, je commence par préciser que comme il s'agit de radio, nous sommes en direct sur Radio 40. Une radio internet basée à Lausanne, dont la programmation est constituée d'émissions musicales, culturelles et de société. Et on remercie chaleureusement Radio 40, avec qui on a collaboré sur tout ce cycle. Donc, ils nous ont aidés à diffuser les podcasts que je vais présenter dans un instant. Et puis, merci aussi au Spoutnik qui nous accueille ce soir. Donc, on va commencer par présenter la table ronde avec Carolina Topini, qui est à mes côtés et qui va nous dire un mot sur l'Estime. Après notre présentation, la parole sera donc donnée aux personnes que je vais présenter dans un instant. Donc on va leur poser quelques questions et puis ensuite on ouvrira au public qui pourra poser ses questions lui aussi. Voilà. Alors, l'association Les Archives Contestataires a été créée en 2007 et elle conserve des archives des mouvements sociaux de la deuxième partie du XXe siècle, dont le mouvement féministe fait bien sûr partie. C'est d'ailleurs chez nous que sont conservées les archives du MLF Genevois. Il y a un an, grâce au versement par Viviane Gonick de 300 cassettes audio qui ont été complétées par des cassettes venant des fonds de Alda de Georgie et de Isabelle Graf Junot, nous avons entrepris le traitement des archives de Radio Pleine Lune, une émission féministe qui a émis tous les mercredis sur les ondes de Radio Zone entre 1981 et 1999. Avec le temps, il y a deux autres émissions féministes qui sont venues s'ajouter à la Pleine Lune. Il s'agit de Remue Ménage et de Radio Canicule, qui sont venues aussi émettre le mercredi. Et donc, le mercredi est devenu Onde Femme, le jour des femmes. Les archives de Remue Ménage viennent d'être versées aux archives contestataires par Catherine Hesse, ici présente. Et les archives de Radio Canicule ont été déposées par Claire Sanière à l'association L'Estime. Voilà. Et on tenait à collaborer ce soir pour cette raison et pour visibiliser l'existence de ces archives dans différents fonds, différents centres d'archives à Genève. C'est donc 350 heures d'archives sonores qui sont à présent numérisées, décrites et disponibles à l'écoute et même au téléchargement via notre catalogue d'inventaire en ligne dont vous trouverez l'accès sur notre site internet. Et parallèlement à ce travail de description archivistique, dans le cadre du projet de valorisation, nous avons mandaté 4 équipes qui se trouvent autour de cette table pour produire chacune un podcast à partir des archives. Les podcasts vont donc être présentés ce soir par une partie des personnes qui les ont réalisés et puis qui se trouvent assises aux côtés des animatrices dont de femmes. Alors, je vais faire un tour de présentation de toutes ces personnes qui sont autour de la table. Donc, je vais commencer par Catherine Hesse, qui est à côté de moi. Donc, tu étais animatrice, bonsoir, de l'émission Remue Ménage, qui a émis entre 1987, je crois, et 1999 sur les ondes de Radio Zone. À tes côtés, Viviane Gonick, tu as cofondé Radio Pleine Lune, que tu as animé tout au long de sa longue histoire. Ensuite, Claire Sanière, bonsoir, qui a cofondé et co-animé Radio Canicule, le quart d'heure lesbien, diffusé sur la plage horaire de Radio Pleine Lune entre 1990 et 1992. Aux côtés de Claire, c'est Christiane Pars, qui est membre du comité de l'Estime et qui a participé à la production du podcast Radio Canicule, quand les lesbiennes chauffaient les ondes de la Pleine Lune, aux côtés d'Isabelle, qui a elle aussi participé à la réalisation de ce podcast et qui co-anime les ateliers Notre Histoire Compte, dont vous allez nous parler ce soir. Ensuite, à vos côtés, c'est Pauline Emery, qui a réalisé avec Paola Antonioni et Marine Maille l'émission Mobilisation de Prénaville, un travail à partir des archives radiophoniques sur l'affaire de Prénaville, dont tu vas nous parler. Et puis finalement, 3 membres de la radio du Love Révolutionnaire sur vous, Bichon, Bou et Lambda, qui vont nous raconter leur expérience contemporaine de radio, qui s'inscrit elle aussi dans le mouvement féministe genevois. Et puis, je mentionne, attendez, je mentionne qu'il existe une 4e émission qui a été réalisée par Lorraine Astier-Cholodenko, Nathalie Clovis-Montbaron et Sarah Destan, qui s'intitule « Des féministes et du porno, un dialogue imaginaire » et qui est, comme les autres émissions, disponible sur Radio 40 et très bientôt sur notre site internet. Voilà. Alors, vous voulez applaudir ? Bon. Ok. Alors, je vais juste dire 2 mots sur Radio Pleine Lune et sur Onde Femme. Et puis, je précise juste que dans ma présentation, j'utilise le terme femme pour être en cohérence historique avec le vocabulaire utilisé par les animatrices de l'époque. Voilà. Donc, en travaillant sur les archives de Radio Pleine Lune, il y a 2 objectifs que s'étaient donnés les animatrices qui se sont dessinées, qui sont prendre la parole et donner la voix. Le titre de cette table ronde est 2 fils sur lesquels nous allons tirer ce soir, et qui permettront, je l'espère, de dérouler différentes histoires, différentes pratiques de radio féministe. Au moment où émerge Radio Pleine Lune, il faut rappeler une époque où les femmes étaient plutôt caractérisées par leur silence. Jusqu'au milieu des années 1980, des historiennes pionnières qui ont été à la fois témoins et actrices du mouvement féministe d'après 68, comme Michel Perrault ou Françoise Thébault, se sont interrogées sur la possibilité même de faire une histoire de femmes ou une histoire du genre, tant le déficit de sources était important. Alors, si le MLF n'avait pas comme vocation première de faire de l'histoire, il s'est développé dans son sillon une conscience de cet abîme historiographique, une conscience de la nécessité de produire des traces et de se pencher sur le passé de ses protagonistes. Et c'est dans cette perspective, il me semble, que s'inscrit Radio Pleine Lune et Ondes Femmes plus largement. Alors prendre la parole, c'était donc sortir de ce silence auquel les femmes étaient assignées en s'exprimant pour soi-même, en tant que sujet de ses propres luttes, et ainsi participer à sa construction identitaire. Donner la voix, c'était rendre compte d'autres vies de femmes, leur démontrer de la solidarité et un engagement qui s'étendra aussi à d'autres groupes dont la parole est minorisée dans l'espace public. Et puis, on peut voir le fait de s'emparer de l'outil radio comme une tentative de rompre avec l'écrit comme forme privilégiée de production théorique, et valoriser ainsi l'oralité qui ne nécessite pas les mêmes prérequis. Même si oser s'exprimer et prendre la parole publiquement nécessite une certaine position sociale et un certain capital culturel ou militant. Mais pratiquer cela en non-mixité est un moyen sans doute de trouver sa voie. À la pleine lune, les interactions entre les animatrices et leurs invités sont libres et une grande part d'improvisation existe. La radio est utilisée pour communiquer sur les luttes en cours, pour faire intervenir des femmes dans l'action, pour présenter des recherches, mais aussi comme un lieu pour se livrer, pour transmettre des témoignages, pour raconter des souvenirs ou pour faire de l'humour. Les modes d'expression sont donc variés et souvent peu formels. Si certaines émissions sont entièrement écrites, la plupart du temps, on intervient à l'antenne comme on parle dans la vie. Car dans le cas de la pleine lune, la radio semble prolonger des échanges et des discussions qui ont lieu au dehors, les animatrices ne cachant pas les relations d'amitié ou de camaraderie qu'elles partagent avec beaucoup de leurs invités. Même si l'audience reste impossible à quantifier, elle est tout le temps imaginée, elle est constamment sollicitée à téléphoner, et quand ça fonctionne, ce sont souvent des militantes connues à l'autre bout du fil. Donc pendant près de 20 ans, Ondes Femmes a été un outil au service de ce tissu féministe genevois et a participé à la construction d'une mémoire militante que ces archives nous rendent aujourd'hui accessible. À toi, Caroline.
Bonsoir et bienvenue. Donc, moi, c'est Carolina, coprésidente de l'Estime, association féministe et lesbienne à Genève. Et les archives sont au cœur de nos préoccupations politiques depuis déjà quelques années, je dirais. Comme une partie d'entre vous le sait déjà, probablement à fin 2018, nous avons lancé un projet militant et associatif qui s'appelle Notre Histoire Compte, en partenariat avec le collectif Queer Code. Un projet qui est né sur la base des désirs communs, je dirais, dont l'envie de faire dialoguer les archives des luttes féministes et lesbiennes à Genève depuis les années 70 avec les luttes féministes actuelles d'aujourd'hui. Et voilà, ces projets reposent sur une démarche collective qui sera précisée par Isabelle et Kiki plus tard, donc je ne vais pas en dire plus. Je peux dire par contre qu'à l'Estime, nous travaillons actuellement à la réhabilitation de notre centre de documentation, qui est un centre de documentation à la fois féministe et LGBT, IQ+. Nous avons déjà fait un travail conséquent de catalogage de nos archives, qui remonte à 2020, avec l'aide de deux archivistes professionnels, des Clio Archives. Et notre projet à terme serait l'inauguration d'un petit centre de documentation et d'archives des luttes lesbiennes qui sera donc intégré à notre association. Donc on l'espère. Avant de laisser la parole aux invités, j'aimerais faire quelques considérations un peu plus personnelles sur l'histoire de Radio Pleine Lune que tu as très bien introduit et qu'on aura le plaisir de découvrir ce soir à travers la parole de ses protagonistes. Depuis l'œil d'une historienne féministe qui travaille sur l'histoire du féminisme, on reste d'abord frappé par la temporalité de cette histoire qui commence, je le répète, en 1981 et termine en 1999. Donc une expérience qui traverse deux décennies, encore relativement étudiée, voire pas du tout, par les historiennes du féminisme. Cette temporalité, à mon avis exceptionnelle, nous permet ce soir d'interroger, de remettre en question la notion de vague féministe, que vous connaissez sans doute, qui s'est imposée non seulement dans les milieux académiques, mais aussi dans les milieux militants. C'est d'ailleurs cette métaphore qui informe aujourd'hui les regards que les nouvelles générations féministes portent sur les passés du féminisme. On entend souvent parler de cette deuxième vague féministe censée se produire du début des années 70 jusqu'à peu près le début des années 80. Et d'après cette périodisation dominante répandue, les années 80 sont censées marquer un moment de repli et d'ensoufflement de l'action féministe après les foisonnements exceptionnels des années 70. On parle justement pour les années 80, mais aussi pour les années 90, de creux de la vague. Eh bien, l'histoire de Radio Pleine Lune nous montre clairement que les années 80 n'ont pas constitué un repli, mais au contraire, il y a eu une dynamique ascendante, en particulier, mais pas seulement, bien sûr, si on s'intéresse à l'activisme des lesbiennes, et notamment à sa dimension internationale, qui est si bien documentée par les archives de Radio Pleine Lune. Par ailleurs, cette métaphore des vagues successives nous propose une compréhension linéaire de l'histoire du féminisme fondée sur une sorte d'idée de dépassement et des progrès. Et à cette métaphore, donc, s'accompagne d'habitude une vision extrêmement réductrice de l'histoire du féminisme de ces années-là, alors que les archives de Radio Pleine Lune, j'insiste, nous permettent de découvrir toute la richesse des débats issus de cette époque. Et je vais nommer une des thématiques issues de ces débats parmi tant d'autres. Je ne sais pas si on aura le temps, l'espace et l'envie d'en discuter, j'espère que oui. Mais c'est par exemple la thématique du racisme qui s'impose par les biais notamment de la 8e rencontre internationale des Lilis de 1986. C'est à ce moment-là qui se déploient les débats sur les racismes dans les milieux féministes, je dirais, européens, mais aussi sur d'autres thématiques comme le validisme, ce qu'aujourd'hui on qualifie de validisme. Et on commence aussi à ce moment-là à parler d'accumulation d'oppression. Donc voilà, on est en 1986 à Genève. Aujourd'hui, on parle d'intersectionnalité, qui est un concept qui nous vient des États-Unis. Eh bien, les débats autour du racisme remontent à bien avant et aussi dans les contextes européens. Donc voilà, juste pour dire qu'on doit se réapproprier de cette histoire et donc pour éviter de se noyer dans les vagues, on vous propose ce soir de se plonger dans les archives pour redécouvrir cette richesse. On espère donc que la table ronde de ce soir sera un premier pas vers la construction d'une nouvelle temporalité féministe, une temporalité commune, on l'espère, qui traverse nos différentes générations, nos histoires et nos contextes. Merci.
Merci. Alors, notre première question s'adresse à Viviane et Catherine. Et voilà, on voulait savoir si vous pouviez, à partir de votre expérience de la radio, nous expliquer cette exigence de prendre la parole en tant que femme et comment est-ce que cette expérience a pu perdurer pendant 20 ans.
Non, ça va. Alors, prendre la parole en première personne. Bon, il faut s'imaginer le paysage médiatique des années 80, c'était vraiment le désert par rapport aux luttes et par rapport aux luttes des femmes. Et puis on en avait marre, ça faisait vraiment des milliers d'années que les hommes parlaient des femmes, ça suffisait. Il fallait vraiment prendre la parole directement, que c'est une exigence des mouvements sociaux en général, et c'était encore plus une exigence des femmes, parce que, comme je vous le disais, il n'y avait rien. La seule chose qui existait dans la Suisse, vous vous rappelez pas qu'il y avait un journal qui s'appelait La Suisse, c'était une rubrique qui s'appelle « Comment j'aide mon grand homme ». Voilà. Donc, prendre la parole, et puis la radio, elle était dans l'air du temps. En 76, il y avait eu la première radio pirate où il y avait déjà eu une émission de femmes, et c'est un moyen très simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus moins coûteux que faire un journal qu'il faut imprimer, papier, l'écrire, le vendre, etc. Donc, en 81, on commence par une série d'émissions pirates qui sont brouillées, et donc on arrête parce que personne ne peut les écouter. Et en mai 81, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui autorise les radios libres, on s'associe peu plus tard dans le projet Radio Zone, où on décide que le mercredi sera la journée des femmes. Voilà. Ça répond à ta question ? Bien. Alors, par rapport à tout ce qu'on a fait, je vais juste aborder trois thématiques. On a fait plein d'autres choses, mais bon. Bref. Donc, il y avait une première série d'émissions que j'ai réarrangée aujourd'hui parce que c'était un peu le bordel là-bas. Bon. Qui s'appelait « Cause toujours, tu m'intéresses ». Et c'était la question de donner la voix aux luttes des femmes. Par exemple, contre les violences sexistes, le droit à l'avortement qui n'était toujours pas garanti, une santé pour les femmes. Et puis en 91, parce que tu as peut-être oublié qu'il y a eu quand même la grève des femmes en 91, et Christiane Brunner et Ruth Dreyfus ont fait très largement appel à nous pour préparer cette première grève. Il y avait aussi des femmes qui n'étaient pas directement dans les mouvements féministes, mais dans d'autres mouvements, par exemple les femmes dans le mouvement antinucléaire ou dans les syndicats qui ont aussi amené des contenus. Une deuxième thématique qui s'appelait
culture et je sais pas quoi, culture...
Parole et musique de femmes,
parole
ça s'appelle.
Et parole et musique de femmes, il y avait femmes toujours.
Il s'agissait là de montrer que les femmes ont toujours été créatrices. Et par exemple, dans la musique, elles ont été compositrices, elles ont été chanteuses, instrumentistes. Il y avait des orchestres de femmes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film « Certains l'aiment chaud », mais c'est tout autour d'un orchestre de femmes. Et cela depuis Hildegard von Bingen, qui au XIIe siècle a composé plus de 70 hymnes et même inventé, je crois, le contrepoint. Le troisième thème, c'était « Femmes d'ici, femmes d'ailleurs ». Là, il y a eu des contacts permanents avec des femmes du monde entier. Beaucoup venaient à Genève parce qu'il y avait des réseaux. Il y a eu le réseau ISIS, dont tu as parlé. Il y a eu le réseau Femmes et Santé, qui sont beaucoup intervenus, les Femmes pour la Paix. Nous-mêmes, on voyageait beaucoup et on se promenait toujours avec notre enregistreur. Et puis aussi, il y a eu des rencontres avec des grandes voyageuses, par exemple Laurence Deona, qui était une grande reporter, ou encore Ella Maillard. Donc, pour conclure, la radio était largement utilisée par toutes les femmes qui voulaient dire quelque chose et personne n'a jamais refusé nos invitations. Et puis, en 85, Catherine et Marianne nous rejoignent et le mercredi devient une femme. Et voilà.
Au tout début, on était sages. On s'appelait « Ménage-toi ». Parce qu'on parlait des travailleuses qui faisaient le travail domestique, donc on voulait les encourager à arrêter d'en faire trop et à penser un peu à elles. Mais quand même, dans cette rubrique-là, on était un peu trop cadrés. Donc un jour, on a décidé, non, ça suffit, maintenant, on veut remuer le ménage. Et donc, on s'est appelé Remue-ménage. Et du coup, vraiment, on est entré en plein dans l'esprit de Pleine Lune, parce qu'avant, je trouve qu'on était un peu sages. Mais on voulait vraiment parler des femmes, les ménagères, et à qui on s'adressait d'ailleurs le mercredi matin. Donc après, avec Remue-ménage, on s'est toutes retrouvées le mercredi à partir de 17h dans le même studio où des fois, on n'avait pas toujours les micros pour tout le monde. Des fois, le téléphone ne marchait pas. Des fois, enfin, la technique, ça n'a pas toujours servi. Mais ma foi, on a quand même toujours réussi à se faire entendre plus ou moins dans tous les quartiers de Genève. Moi, j'avais juste envie de reprendre quelques-unes des chapitres qu'a dit Viviane pour donner encore plus d'exemples. Je crois que sur les sujets féministes, qui évidemment était la base de notre histoire, on a fait parfois des dossiers, c'est-à-dire on appelait ça un dossier, c'était « Cause toujours, tu m'intéresses », ça prenait des fois plusieurs émissions, parce qu'on essayait d'approfondir. Et pour ça, on a été des thèmes très très différents, qui, bien sûr les femmes migrantes par exemple, déjà ont été une de nos grandes préoccupations, par exemple les enfants clandestins des migrants, parce qu'à l'époque les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, donc officiellement selon les permis de leurs parents. On a aussi s'est appuyé sur des recherches que menaient certaines, comme les jouets masculins-féminins, hein, pour montrer la diversité des sujets. On a fait de nombreuses émissions sur femmes et développement. parce que qui nous emmenait justement dans toute cette planète femme de par le monde. On a fait femme et engagement politique, bien évidemment, que ce soit l'engagement alternatif et radical ou que ce soit l'engagement dans les institutions politiques, avec Gabrielle Nanchen, Ruth Dreyfus, enfin, toutes ces femmes qui ont cru qu'elles allaient trouver leur place dans ces institutions politiques très lourdes à l'époque, qui tout sauf étaient prêtes à les accueillir. Et puis, on a parlé, bien sûr, toutes violences faites aux femmes, harcèlement sexuel, comme on disait, contraception, sexualité, ménopause avec le réseau Femmes et notre amie Rina, qui était, je crois, une permanente à nos micros, évidemment. Et puis, on avait des rendez-vous très, très réguliers avec des associations. Parce que tout ce qu'on a pu faire là, c'est parce qu'on était aussi, on s'appuyait énormément sur un réseau d'associations de femmes qui existait, bien évidemment. C'est pas qu'à nous, quatre ou cinq animatrices, qu'on allait pouvoir faire tout ça. Donc, par exemple, on avait un rendez-vous très régulier. Et elles sont là ce soir, je suis bien contente, avec les femmes de l'Inédite, Annette et Evelyne, qui venaient chaque mois nous faire découvrir des lectures passionnantes concernant des auteurs femmes, déjà qu'on ne connaissait pas beaucoup, et qui évoquaient, bien sûr, des sujets femmes. On avait des contacts avec le groupe SIDA Genève et Brigitte, le centre de contact Suisse Immigrée, les femmes de l'usine, déjà les jeunes femmes de l'usine, le groupe Femmes d'Amnesty International, Viol Secours, bien évidemment, Helvetas pour tout ce qui était la coopération, le bureau de l'égalité, on a eu Marianne Frischnecht qui était la responsable du bureau de l'égalité plusieurs fois, de nombreuses associations de femmes de théâtre ou d'associations culturelles qui venaient parler, comme on l'a dit tout à l'heure, des créations de femmes et qui évoquaient aussi la situation des femmes, qui traduisaient le besoin des femmes. Réseau Femmes et Santé, on a déjà dit. Et puis les archives de la vie privée, avant les archives contestataires, il y avait les archives de la vie privée, avec qui on échangeait beaucoup. Et grâce à tout ce réseau incroyable, on a pu animer toutes ces émissions et faire venir des femmes aussi qu'on avait tellement de plaisir à recevoir, comme Lucie Aubrac, comme Leila Shahid, comme Léa Tsemel, avocate israélienne, comme beaucoup de réalisatrices de cinéma, par exemple, africaines, parce qu'elles venaient souvent à Genève, et nous, on allait chaque année au Festival du film international de Créteil, où on parlait enfin de cinéma fait par des femmes, ce qui était absolument exceptionnel à l'époque. À Créteil, elles étaient uniques. Et on revenait chaque année au moins 3 ou 4 émissions pleines d'interviews des réalisatrices qu'on avait rencontrées. Aussi, les tout débuts du Festival des droits humains, en rencontrant une femme comme Carmen Castillo, résistante chilienne, et Michel Perrault, dont tu parlais tout à l'heure, qui est venu souvent aussi à nos antennes. Donc, vraiment, on s'appuyait beaucoup, beaucoup sur les femmes qui luttaient et qui avaient envie de parler. Nous, on avait envie de leur donner la parole. Et quand on a décidé d'arrêter de faire Onde Femmes, le 15 décembre 1999, eh bien, on a bien dit que des centaines de toutes ces femmes qui avaient besoin d'un espace pour s'exprimer, pour parler, pour faire entendre leur voix, étaient venues parler de leurs projets, de leurs coups de cœur, de leur colère, je vous dis ce qu'on avait écrit à l'époque, hein, de leur création, des femmes d'ici et d'ailleurs, comme on a dit, de partout ailleurs. Parce que si j'ai regardé les pays dont on avait parlé, il y avait le Nicaragua, le Chiapas, le Brésil, de nombreux pays africains, la Palestine, l'Uruguay, les femmes afghanes, vraiment. On a pu aller dans le monde entier grâce à toutes nos rencontres. Et c'est toutes ces femmes qui nous montrent que dans le monde entier, des femmes se battent pour leur liberté, leur autonomie, leur dignité. Et quand on a décidé d'arrêter, ben c'est parce qu'on estimait qu'à ce moment-là, la voie qu'on avait ouverte avec la radio, eh bien, elle était bien dégagée. Désormais, il y avait de plus en plus de femmes journalistes qui s'exprimaient sur tous les sujets, et non pas seulement dans la page magazine Femmes ou Elle, n'est-ce pas? Et la culture et la créativité des femmes sont enfin rentrées dans l'institution des médias, que ce soit la radio, la télé ou les journaux, et dans les institutions aussi comme la comédie, enfin les théâtres où il y avait des directrices, dans les associations partout auxquelles nous avons été souvent les premières à donner la parole, mais là, enfin, beaucoup avaient la parole. Et on disait déjà à cette époque, mais ça on le disait à Jean Musy, responsable de Radio Zone, on va garder nos cassettes. Je ne sais pas ce qu'il a pensé sur le moment, il s'est dit qu'on allait voler les cassettes de l'histoire de Radio Zone, mais on lui a dit, Non, on veut les garder parce qu'on veut les transmettre pour la mémoire des luttes de femmes. À l'époque, on parlait de filigrane, F-information, mais on est bien contente qu'entre-temps, il y ait eu les archives contestataires. Et on tenait vraiment un sacré coup de chapeau, Géraldine, à te soulever.
J'ai juste un petit dernier mot pour effectivement remercier les archives contestataires et Géraldine pour le magnifique travail que tu fais. Parce que je pense que pour les jeunes qui réécoutent ces émissions, elles se rendent compte qu'il y a eu dans ces années-là un féminisme radical à la fois dans la parole et dans les actions. Et que ça fait, je pense, écho. Cette rencontre entre ces deux bouts de vie, ça fait écho et elles le reprennent d'une manière et d'une autre. Et pour ça, vraiment, un grand merci à vous.
En fait, oui, c'était à moi de poser la prochaine question. Non, mais effectivement, je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, Viviane. Et puis, notre question, elle va aller à l'autre bout de la table. L'œuvre révolutionnaire. Et attendez, je peux vous passer un micro sans fil si vous voulez. Je pose la question et je vous passe mon micro. Alors oui, qu'est-ce que c'est de faire de la radio féministe aujourd'hui? Et en fait, on voulait juste vous demander de revenir sur votre expérience et de nous parler de vos liens contemporains avec le mouvement féministe Genevois. Voilà, je vous passe la parole.
Merci. Alors, du coup, on ne peut pas parler pour toutes les radios féministes, mais en tout cas, on va vous faire un historique de comment nous, on est nés, enfin, pourquoi on fait de la radio et à quoi ça ressemble, notre manière de faire de la radio. Donc, on a une émission qui s'appelle « Du love révolutionnaire sur vous ». Et puis, on est issu d'un même collectif, Féministe Genevois, qui s'inscrit dans une vision féministe qui va pas chercher des solutions auprès des institutions, donc aussi plutôt radicale, qui est antiraciste, anticapitaliste, contre les LGBTQIA+, phobie, anticarcérale, etc. Et donc ça donne aussi les thèmes que l'on va chercher. Comme aussi le collectif, il y a cette question d'anonymat. On ne s'est pas donné beaucoup de peine ce soir, mais... Mais il y a cette question aussi d'agir de manière anonymisée. Donc on a des pseudos plutôt joyeuses et décalées. Et ça se voit aussi dans notre manière de faire de la radio. Et on s'organise donc là pour le coup en mixité choisie, sans homme cisgenre diadique. Et puis il se trouve que c'est pas choisi, mais à la radio on se définit, enfin toutes les personnes qui sont là se définissent comme personnes queer. Et donc pour l'historique, en fait début mars 2020, le collectif avait demandé une autorisation pour faire une manif de nuit, qui a été refusée quelques jours avant. Et puis ensuite, on s'est retrouvé donc confiné à CDC, comme vous le savez, à cause du Covid, sans pouvoir donc continuer à militer. Et là, on a entendu parler donc de Radio 40. Merci Radio 40. Qui s'est monté à la base pour permettre aux artistes de se produire quand même. Et puis, en fait, c'est grâce à cette plateforme qu'on a eu l'idée de faire de la radio. Et donc, la première émission, elle a construit cette fameuse manif de rêve qui n'avait pas eu lieu. Donc, on a un peu narré cette manif-là, imaginé ce que ça aurait donné si on l'avait faite. Et puis les émissions suivantes, elles ont tourné autour des collectifs qui avaient été invités. Par exemple, Amani, qui est un collectif afroféministe de Nyon, Asile LGBT, Les Foulards Violets ou encore Le Crack. Donc finalement, c'est de cette frustration de 2020, de ce besoin de se retrouver, et puis aussi de cette inquiétude globale, que notre émission est née. Et donc la radio, pour nous, c'était un espace pour continuer à militer à distance. Alors, je dis radio, peut-être qu'à cette époque, ce qu'on faisait, ça peut pas s'appeler radio, mais notre dispositif, il a évolué en même temps que les mesures liées au Covid, c'est-à-dire qu'au début, donc à distance, on s'enregistrait séparément, et on faisait le mixage ensuite, donc on faisait ensuite on faisait des podcasts, puis enregistrement collectif, qu'on transformait aussi en podcast, et puis ensuite, on a fait des lives. Et par exemple, en mars 2021, on a fait un suivi de la semaine de lutte féministe coordonnée par le collectif. Et donc, on était tous les soirs à la radio. Et de manière générale, nourris par la présence et les discours de camarades et puis de personnes qui font partie de la scène militante autonome genevoise. Donc voilà, aussi pour répondre à ta question, ce sont ces différentes manières qu'on a de faire résonner le mouvement féministe autonome local.
Merci. Bah, j'ajoute que une autre façon, enfin une raison pour laquelle on est lié à le mouvement féministe, ou comme tu le disais peut-être, c'est qu'on est tous impliqués dans d'autres sphères politisées nous-mêmes, et ça vient nourrir la radio, que ce soit au niveau de nos positionnements, de nos pratiques militantes, même des contacts qu'on a et que du coup on peut utiliser dans nos émissions. Et un autre lien également qu'on a avec le mouvement féministe et je dirais autonome de manière générale, c'est qu'on essaie d'enjoindre nos auditrices à rejoindre ces mêmes luttes. Pour ça, on a plusieurs techniques, c'est proposer le contenu qu'on propose, mais aussi on aime bien faire un agenda politique quand on fait des lives, et du coup on rappelle les événements à venir, les manifs, les cycles comme celui-ci. Et puis peut-être pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est de faire de la radio féministe aujourd'hui, c'est la question qu'on s'est posée pour l'émission du 2 mars, c'est de ça qu'on a parlé, pour celles qui n'auraient pas écouté. Et on n'a pas de réponse précise. En tout cas, ça nous a permis de faire dialoguer le présent et le passé. Du coup, en réutilisant et réécoutant les archives de Radio Pleine Lune, et c'était vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir faire ce travail-là. Donc, par rapport à Radio Pleine Lune, on s'inscrit forcément dans des contextes qui sont différents. Mais je crois qu'on porte des enjeux qui sont similaires, que vous avez mentionnés, tels que prendre la parole, mais aussi faire remonter des discours féministes et militants, se rencontrer, faire réseau. Et puis évidemment, comme l'a dit Lambda, la possibilité de créer du contenu, j'ai failli me tromper, la possibilité de créer du contenu, elle a bien évolué, diffusée est devenue beaucoup plus accessible, même si nous on fait de la radio web, donc c'est encore différent. Mais une autre chose qui a... Bon, par ailleurs, faire de la radio normale, c'est hyper coûteux. Et une autre chose qui a énormément évolué, comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est la place des femmes. Et comme vous l'avez dit, la voix a été dégagée. En 99, Radio Pleine Lune faisait le constat que les femmes étaient alors beaucoup plus présentes, visibles et entendues dans les médias d'une part, mais aussi dans la politique et la culture, etc., dans la société de manière générale. On fait le même constat, enfin on le partage, mais je crois que pour nous, faire de la radio féministe, c'est justement ne pas se contenter de ça, ne pas se contenter de la féminisation des sphères de pouvoir, entre autres. Et je crois que ce qu'on cherche en faisant de la radio féministe, comme l'a fait Radio Pleine Lune par ailleurs, c'est se rassembler et pouvoir proposer du contenu qui mette à mal des discours racistes, sexistes, transphobes, etc. Donc c'est à la fois pouvoir se raconter dans notre pluralité, donc entre autres en mettant en avant des personnes et des discours qui ne sont pas entendus dans notre société blanche et cis-hétéro-patriarcale. Mais c'est aussi proposer une critique de ces mêmes systèmes d'oppression qui nous marginalisent tous à différentes échelles. Voilà.
Oui, du coup, comme ça a été dit avant par vous ou avant par les personnes de Radio Pleine Lune et Remue Ménage, donner la parole à celles qui n'en ont pas, c'est une question qui est centrale pour le féminisme et pour la radio féministe. Mais aussi, le fait de trouver nos voix, c'est quelque chose qui est important pour nous, dans le sens d'apprendre à prendre la parole, apprendre à poser nos voix. Ça nous entraîne aussi pour ça, et ça nous permet aussi du coup de créer du contenu qui soit à notre image et qui nous fasse du bien pour nous et aussi pour nos copaines. C'est ça aussi notre volonté avec la radio. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de créer différents formats, différents contenus qui nous font plaisir, qui nous permettent de nous amuser, comme des karaokés, des karaopos, où on va détourner du coup les paroles des musiques avec des jingles, etc. Et tout ça, ça permet en fait de créer une contre-culture, une culture qui permette de nourrir notre militantisme parce qu'elle est justement à l'image de nos valeurs révolutionnaires. Donc pas uniquement avec des revendications politiques ou des luttes, mais réellement avec des nouvelles références culturelles, un nouvel humour, un humour qui ne serait pas oppressif, avec nos propres musiques ou nos propres codes de langage. Et c'est des choses aussi qui nous permettent de créer un imaginaire commun qu'on vient nourrir et aussi diffuser par la radio, par nos rencontres, par le fait d'inviter du public, et qui aussi, on l'espère, bah, ce qui nous fait surtout plaisir, c'est le fait que notre public se reconnaisse dans cette culture qu'on crée avec eux, et cette culture qu'on vient essayer de nourrir. Mais aussi, la radio féministe, c'est le fait de pouvoir penser collectivement et créer du coup des discours féministes dans une temporalité qui soit différente des manifestations et du coup qui nous donne plus de temps et plus d'espace justement pour réfléchir et pour réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'en étant plusieurs à s'entendre et à s'écouter, on permet de pousser les réflexions plus loin. Et ça, c'est aussi enrichissant, mais aussi par le fait de pouvoir apprendre parmi et se donner des moments d'auto-formation, par exemple avec les dimanches post-prod ou les ateliers installation technique, etc. Enfin bref, voilà, donc nous, on a aussi une volonté de créer un espace chouette pour nous, mais aussi pour les autres personnes qu'on invite, pour notre public, etc. Et ça, ça fait aussi partie du coup des luttes féministes, donc dans cette création d'espace. Et on a une volonté aussi d'accueillir les personnes correctement, de les accueillir bien, de faire en sorte qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent écoutées, justement bah, en opposition avec, avec les espaces normés. Et c'est aussi important du coup pour nous, même si on n'y arrive pas toujours, c'est un but en soi. Et puis avec la création d'espaces d'écoute collective, notamment au Nadir, eh ben, ça nous permet aussi de créer des espaces de discussion entre les personnes qui écoutent la radio. Ça permet en fait de créer des lieux de rencontre, des lieux de partage qui sont aussi super importantes d'un point de vue militant. Et du coup, ça, on essaye aussi d'inviter le plus possible le public à participer, notamment par les karaokés ou avec... En fait, c'est cet espace du coup qui devient un peu poreux entre nous, le lieu où on crée, et le lieu où les personnes elles nous écoutent, puisque les personnes elles sont physiquement proches et elles peuvent intervenir dans les micros. Du coup, avec la radio du Love Revolution sur vous, on essaye vraiment de créer un espace qui soit ouvert et qui dépasse simplement la radio et l'émission sur Radio 40, mais qui aille aussi au-delà.
Donc je reprends cette idée de la radio féministe comme espace pour continuer à militer à distance. Et j'en profite pour faire les liens à la question qu'on va poser à Claire. Comment la radio vous a-t-elle permis de rester en lien avec les mouvements et avec une activité militante féministe au moment de la naissance de votre enfant ?
Bonjour. En fait, je suis française. J'arrivais de Lyon, où j'avais rencontré une commune de femmes lesbiennes, parce qu'il y en a une qui était venue d'Allemagne. Je ne sais plus dans quelle ville où elle avait vécu, dans une commune de lesbiennes. Elle était venue à Lyon. Elle avait un appartement où il y avait plusieurs lesbiennes. Et c'est la première fois que je me retrouvais dans un groupe de lesbiennes. Parce que moi, je suis lesbienne depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans. Enfin, mais je n'avais jamais rencontré de groupe de lesbiennes. Et quand je suis venue à Genève, on m'a dit qu'il n'y avait pas de groupe de lesbiennes, je crois, mais il y avait l'insoumise. C'était des féministes super radicales et il y avait des lesbiennes dedans aussi, donc j'y suis allée. Et c'est vrai, c'était super, vraiment. Alors. et puis, alors, Mais au bout d'un moment, on avait quand même envie, les lesbiennes, de se rencontrer entre nous pour parler de nos choses à nous. Parce qu'on a, on a quand même une expérience différente des femmes hétéros. Enfin, il y en a qui sont bi, mais enfin, bon. Alors on a décidé de faire un petit groupe de celles qui étaient lesbiennes dans l'insoumise. Et on a décidé de s'appeler Vanille Fraise, voilà. Et on a commencé à faire des sprays sur les murs, et puis on a fait une manif, et puis on a fait beaucoup de choses comme ça. Et puis moi, j'avais l'idée d'un enfant, mais je ne voulais pas de père. C'est un peu difficile, mais bon. Je voulais pas. Oui. Donc, en 1981, j'étais à Vanille Fraise, sous-groupe de l'Insoumise, et je diffusais la radio féministe, Radio Pleine Lune. Voilà. Et le groupe de Vanille Fraise, on savait pas bien quoi faire. Une fois, on s'est dit, on va faire une émission de radio. Alors, on s'est réunis dans la commune des lesbiennes, et puis on a fait Sappho revient. L'émission Sappho revient, Cosette ou la vraie vie d'une lesbienne sans famille. Alors, il y a une émission que. C'est assez rigolo parce qu'on rencontre. Puis il y avait aussi des chansons et tout ça. Et puis on a continué après, mais on n'a vu qu'une seule émission en fait. En 81, mais moi, je poursuivais mon idée de bébé et j'ai trouvé un médecin à Lyon qui m'a fait des inséminations et finalement, je suis tombée enceinte et en février 90, j'ai ma fille qui est née et que je gardais seule à la maison parce que j'avais pas de papa, enfin, j'aurais pu avoir une copine, mais c'était difficile, c'était compliqué. Et bon, donc je voulais refaire un peu de militantisme, mais quand vous avez un bébé que vous êtes seul avec, vous pouvez pas aller dans une réunion tous les soirs, ni sprayer sur les murs, ni faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Alors j'ai eu l'idée de demander à Radio Pleine Lune si elle voulait bien nous passer une cassette qu'on ferait chez moi. On s'appelait Le quart d'heure lesbien, après la plage lesbienne de Radio Pleine Lune. Radio Canicule, en fait, ça s'appelait. Plusieurs noms. Et alors, ça se faisait comme ça. Moi, j'avais mon bébé chez moi. Et j'avais une petite chaîne stéréo toute petite avec deux places pour les cassettes. Et on pouvait. Et j'avais deux copines qui sont venues avec moi. Une, Patricia, qui est journaliste et qui savait faire un peu la technique. Et puis l'autre, Barbara, qui était une féministe que j'aimais beaucoup et qui avait beaucoup, qui lisait beaucoup, qui écoutait beaucoup de radio et tout. Et elle était d'accord de venir chez moi, donc un mercredi sur deux, non, un mardi sur deux. Et on faisait des radios. Alors, la première émission qu'on a fait des radios canicules, c'était le 14 novembre 90. Ma fille est née en février 90. Donc, voilà. Alors, à part ça, par exemple, ça commence par une interview de Catherine Gonard, qui est une rédactrice en chef du journal Lesbia Magazine qui venait de sortir en France. Et puis, on parlait aussi des lectures qu'on avait. On parlait aussi des interviews, c'est-à-dire que ce que je faisais le week-end, j'allais aux conférences de l'ILIS, International Lesbian Information Service, de l'ILGA, International Lesbian Gay Association. Il y avait aussi, alors on allait, puis on rencontrait beaucoup de lesbiennes du monde entier. On avait déjà un carnet d'adresses terribles. Et puis, on les interrogeait, puis on passait les radios, puis on faisait une radio en une soirée. On est allé aussi à Berlin une fois faire une manif parce que Boris Yeltsin qui était là, et puis on avait rencontré une fille qui s'appelait Olga Zouk, qui était une. Qui était lesbienne et qui a raconté comme c'était difficile d'être lesbienne en Russie, comment elle avait été internée, comment on lui avait donné des médicaments et tout. On a continué comme ça. Et le week-end, donc pourquoi je faisais ça? Parce que le week-end, je laissais ma fille à ses grands-parents adoptifs qu'elle aimait beaucoup. Et ouais, je pouvais partir 2 jours. Et puis, j'allais faire ces interviews. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la biographie, une biographie controversée de Marguerite Yourcenar et des femmes. Le cahier vert, interview de Justine François, c'est un livre très bien. Sur un carnet de vie, l'amour, la maladie, le renforcement. C'est une sorte de deux lesbiennes qui. Il y en a une qui a un accident et alors qu'elle commençait à moins s'aimer, ça a fait revivre leur amour. La théorie de la différence sexuelle, c'est de la librairie de Donna Milan. C'était une théorie sur le lesbianisme qui avait cours en Italie. Mythologie féministe dans l'Inde pré-patriarcale. Je vous lis pas tout, je vous lis les trucs principaux. L'ILGA, European at Stockholm. Le journal lesbien de Moscou, Tema. Donc en 1990 que, création d'un groupe lesbien féministe à Paris contre la guerre du Golfe. Enfin, c'était très varié. Week-end de la chose, coordination homosexuelle suive à Soleure, sur la demande de mariage homosexuel. Voilà. The Social Construction of Lesbianism par Celia Kitzinger. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je suis allée la voir en Angleterre. J'ai fait des interviews. Le lesbianisme dans les prisons russes. Le dernier livre, le Festival international de films de femmes de Créteil, bien sûr.
Ok. On profite de la petite pause pour poser la question à Isabelle et Kiki. On voudrait vous demander, en retour sur l'expérience des ateliers que vous animez relatifs au projet Notre Histoire Compte, et aussi un retour sur la conception, la réalisation du podcast. Et à partir de cette question, donc, de quelle manière l'archive permet des solidarités politiques et notamment des solidarités politiques entre générations différentes.
Voilà. Je reviens sur le projet de l'estime Notre Histoire Compte, qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a commencé à mettre sur pied déjà dès 2018. Avec des premiers ateliers qui avaient pour but de revaloriser des archives, de les faire remonter un peu à la surface aussi. Donc, notre histoire compte, c'est nos lieux, nos fêtes, nos combats. principalement à Genève et sur la qui a concerné la communauté lesbienne et les luttes lesbiennes et féministes. Donc, le but de ces ateliers, c'est bien évidemment de faire se rencontrer aussi des femmes et de partager des différentes expériences, différents savoirs, sous forme quand même plutôt ludique. Enfin, je laisserai Isabelle après développer donc Queer Code, hein, puisque c'est aussi un projet, enfin, c'est le projet de Queer Code avec l'Estime. Donc, des ateliers qui soient pas trop peut-être intello, peut-être trop cérébral ou élitaire, mais enfin quelque chose de ludique où toute personne pourra se sentir à l'aise à parler de ses souvenirs, à témoigner, à faire remonter des documents tels que des flyers, des objets, des affiches de soirées ou de rencontres ou de manifestations. Et puis, dans le but aussi de leur faire prendre, qu'il y ait une espèce de prise de conscience que ces archives, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui a constitué notre histoire, donc nous appartient, c'est notre matrimoine en fait, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préserver. Et j'ai remarqué aussi dans ces ateliers, il y a au départ certaines personnes qui avaient un petit côté comme ça, un petit peu... Hein, pas trop sûre d'elle, un peu timide à se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Est-ce que finalement ce petit souvenir ou cette petite histoire que j'ai vécue dans les années 90 ou 2000, est-ce que c'est si important que ça, etc. Et finalement, oui. Et il y a une prise de conscience de cette importance. Il y a une prise de confiance aussi en soi. Ça, je trouvais que c'est très important. Et puis, au-delà de ces partages, il y a aussi beaucoup d'émotions, en fait. Donc, voilà, ces personnes, ça nous permet de légitimer aussi le fait de découvrir toutes ces archives, d'en créer, d'en constituer de nouvelles, puisque ces ateliers, ils sont aussi pratiques, et puis de contribuer, en fait, aussi à les préserver. Donc, on est en permanence en train de motiver aussi les personnes. D'ailleurs, j'ai mis des petits flyers sur les tables pour que vous puissiez nous contacter et puis contribuer avec nous à renforcer le fonds d'archives qu'on a déjà à l'Estime, en fait, et qu'on va continuer d'alimenter. Et puis, on a aussi en ligne une cartographie numérique de tous ces événements qui ont eu lieu à Genève depuis les années 70 jusqu'à nos jours, que vous pouvez consulter et qu'il faut évidemment alimenter du mieux qu'on peut. Donc voilà, ben le dernier atelier, c'était en deux parties. Il était donc mi-novembre et puis mi-janvier. C'était donc l'atelier qu'on a appelé podcast et qui permettait de faire découvrir d'ailleurs les émissions donc Radio Pleine Lune, les émissions Ça vous revient et Radio Canicule, et puis de pouvoir nous-mêmes au travers de l'atelier créer un podcast. Enfin, ça c'était après la sollicitation des archives révolutionnaires, de les archives contestataires, pardon. Donc, de pouvoir réaliser aussi nous-mêmes, d'approcher, parce qu'il y a un côté technique quand même qui est un petit peu délicat, mais l'atelier était très bien mené par Isabelle Santis. Et puis, je voulais aussi citer Florence Bruni, qui était l'animatrice de cet atelier également, et qui nous a vraiment expliqué comment on pouvait réaliser un podcast. Donc, ça a beaucoup intéressé les personnes qui étaient présentes. Et puis, c'est elle qui a réalisé enfin le podcast final que vous avez pu écouter peut-être hier soir et qui s'appelle « Canicule, quand les lesbiennes chauffaient les ondes de Radio Pleine Lune » et qui dure à peu près 40 minutes. Donc, c'est un gros travail, mais assez fantastique, qui nous replonge vraiment dans ces années. C'est très intéressant. Mais je passe peut-être... qui va parler un peu de la jeunesse du...
C'est bien quand on est à plusieurs, il faut l'applaudir. Et puis on est surtout beaucoup dans la salle, donc en fait, c'est voilà, parce qu'effectivement, c'est une dimension collective. Et puis, en fait, j'ai fait un peu comme Claire. Moi, j'ai traversé aussi la frontière. Je viens de France et depuis 12 ans, en fait, je viens régulièrement à l'Estime et je trouvais en fait ma communauté de femmes et puis d'autres aussi. Et ça, c'est super. Et un peu comme... clair, il y avait l'envie un petit peu de partager, transmettre, de donner la parole. Et c'est vrai que depuis 2018, il y a ce projet, donc notre histoire compte. Nous, à QR Code, en fait, on a ces pratiques-là, comme on pourrait dire, DIY, assez pirates concernant les archives, pour nous rendre légitimes, qu'on reconstitue, et puis parfois faire comme Monique Wittig, inventer, parce que nos vies sont inventées, donc c'est ce qu'on fait. Et puis, effectivement, beaucoup de plaisir, parce que ça, je crois que c'est important, donc beaucoup de plaisir à l'estime. Et donc, on fait des ateliers, parfois à l'estime, parfois dans des lieux, bientôt aux archives contestataires, voilà, et un petit peu partout. Et puis au départ, c'était des lieux de lutte, des lieux de fête. Et puis moi, je me suis dit, mais il y a les radios. Et moi, j'avais un peu presque les mêmes pratiques que Claire, c'est-à-dire que dans les années, milieu des années 90, je dirais la française, moi, j'étais sur une radio libre, Radio Campus, dans le nord de la France, avec les Flamants Roses, mon groupe mixte, gay, lesbienne, comme on s'appelait à l'époque. Et en fait, moi, je lisais Lesbien Magazine, et comme Claire, en fait, un petit peu avant, je donnais des nouvelles du monde entier via, en fait, ce travail extraordinaire qui était fait par l'équipe de Catherine Guenard. Et donc, c'est vrai que quand on s'est replongé dans cette histoire et les pratiques de Radio Pleine Lune, ben, il y avait vraiment du lien et des pratiques assez similaires, proches. Et donc, c'était très émouvant. Et puis, en fait, on a commencé le projet autour des émissions de radio parce qu'on s'est dit, ben oui, voilà, alors, il devait y avoir bien des émissions de radio. Et ben, nous aussi, on était en pleine pandémie, hein, voilà, on partageait tout ça. Et donc, on a fait un atelier en ligne. Et on s'est retrouvés avec plein d'activistes de Genève, des activistes d'Espagne, des archives lesbiennes de Québec, bref, un peu partout. Et on a parlé justement avec Claire, avec Barbara, on a parlé de vos émissions. Et on a aussi fait de l'écoute à distance. C'est assez étonnant, comme on a tout foiré en plus. Mais bon, tout le monde était très positif, donc nous a soutenus jusqu'au bout. Et bah c'est ça, en fait, aussi. C'est peut-être foirer des choses, mais en fait, c'est créer du lien, aller au-delà parfois de la honte pour trouver quand même du plaisir à faire et être fier après de l'avoir fait. Et malgré voilà tous ces embêtements techniques, parfois, eh ben, il y a des pépites humaines. Et merci Claire, parce que c'est vrai que c'est épuisant parfois de témoigner, de raconter, de se replonger. Et c'était vraiment un très beau cadeau. C'était il y a à peu près un an. Et en même temps, eh bien, voilà, Dulove nous disait, ben ouais, c'est super la radio. Les archives, Géraldine nous disait, ouais, on a un projet. Nous disait, bon, ok. Et voilà, en fait, souvent quand on a des pratiques, d'autres ont les mêmes pratiques, ont les mêmes envies. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a pu converger et on a pu faire ensemble. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est pas toujours le cas. Et moi, je suis vraiment ravie qu'on ait pu le faire à l'estime. Quoi vous dire, Massur, bah, tu l'as dit, en fait, on a fait deux ateliers. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec Flobé, c'est une immense générosité. Elle a partagé une pratique, elle a partagé du matériel, mais surtout, en fait, on a fait ensemble. Et on a donc appris à prendre du son avec plein d'objets extraordinaires, vive les jouets. Et puis on a également aussi appris à essayer de réfléchir à une narration. Moi qui suis une grande dyslexique, on a été à la phase montage, bon heureusement que dans la salle elles ont assuré, parce que moi voilà, je ne vais même pas ouvrir le fichier. Donc ce qui est en fait, c'est l'entraide. Et aussi, mais justement, s'autoriser. Et puis, effectivement, c'est Flobé qui a fait un travail extraordinaire. Ce soir, elle est avec nous en pensée, elle nous écoute de France. Ben un peu comme toi Claire, voilà, elle s'occupe d'un petit marmot extraordinaire et que parfois voilà, ça demande de l'attention, mais elle est avec nous et elle nous a donné beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et donc on lui envoie plein de paillettes d'étoiles. Ce qu'on pourrait dire aussi pour répondre à la question qui demanderait donc 2 heures et 3 doctorats, mais comme on est ensemble, je pense qu'on va réussir à répondre à la question sur cette dimension d'archives qui permet des solidarités politiques. Moi, ce que je dirais, c'est la compréhension des mobilisations passées, présentes. Et c'est vrai que j'ai réécouté un petit peu des émissions, tu l'as évoqué, notamment des lesbiennes de Belgrade, des lesbiennes russes, et les écouter, voilà, en 1991. Ça a des échos aujourd'hui, mais c'est aussi des luttes et des solidarités qui s'entraînent. Et vous parliez de réseaux, mais qui sont entretenus encore aujourd'hui. Je dirais aussi que ça décuple la créativité. Ça donne des envies d'expression politique. Mais là, on a plein d'exemples autour de la table. Et surtout, ça nous permet de lutter contre cette société oppressive. Et ça, c'est important. C'est aussi des imaginaires qui se révèlent. Tu nous as permis de découvrir ce merveilleux projet à Berlin de lieux culturels autogérés de femmes et de lesbiennes. Et c'est vrai que ben voilà, ça continue de nourrir nos envies et nos désirs. Et puis, il y a plein de choses à dire. C'est aussi partager beaucoup d'humour. Vous l'avez évoqué. Nous, on a adoré ton humour clair, tout l'humour en fait qui irradie ces émissions. Donc vraiment, plongez-vous dans ces émissions. Et puis, ce qu'on a aussi beaucoup apprécié, ça a été de partager de l'écoute en fait collective, un petit peu comme vous. Et ça, c'est vrai que c'était précieux d'avoir ces moments-là pendant nos ateliers, de se réunir ensemble et d'écouter. Et ça, c'était des moments assez étonnants. Et puis je pense que si les archives, en fait, ça nous permet de créer des espaces de ressourcement émotionnel. Et je pense que quand on lutte, c'est très important. Quand on lutte, on s'abîme. Quand on lutte, parfois on meurt. Et moi, là, j'ai perdu une amie il y a 15 jours. Et en fait, j'ai réécouté avec beaucoup d'émotion les émissions qui ont été créées sur Radio Pleine Lune en souvenir d'une grande militante lesbienne de Vanifraise, Sylvie. Et de voir toute cette attention en fait portée par les militants de Radio Pleine Lune à cette femme extraordinaire, à cette lesbienne extraordinaire, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup touché, moi qui suis en deuil et qui suis vraiment très très mal. Et en fait, ça m'a vraiment en fait beaucoup apporté. Et donc c'est ça que je trouve fort dans les archives, c'est que ça nous apporte plein de choses, du plaisir, des émotions, du désir et puis aussi des savoirs pour continuer la lutte et puis surtout créer des archives, parce que nous, en fait, on a créé plein d'archives. C'est-à-dire qu'il y a 35 cassettes à l'estime, donc, qui ont été confiées par Claire de ces émissions lesbiennes de Radio Canicule. Et puis, en fait, nous, on t'a interviewé. On a interviewé Barbara, on a interviewé Patricia, on a interviewé Rina. Et en fait, maintenant, ça crée des archives, ça crée vos voix aussi qui racontent cette histoire. Il y aura aussi l'archive de ce soir. Il y a aussi tout le travail qu'a fait Flaubert, parce qu'elle a retranscrit ses interviews pour faire aussi de l'archive et aussi nous permettre de faire un montage qui est vraiment très très précis. Et puis ça nous a permis aussi de tisser à nouveau des liens avec toi, avec Barbara, pour aussi d'autres projets, puisque cette année c'est quand même les 40 ans de la Goudou Manif, powerful. Et donc là, attention, l'estime a plein de projets. On va débarquer encore chez toi, Claire. Voilà, hein, tu le sais. Maintenant, on connaît l'adresse. Bon, on toquera avant, bien sûr. Et l'idée, c'est que vraiment continuer de se donner de l'énergie. Tu nous as donné aussi tes livres, parce que ça, c'est aussi des archives puissantes. Bref, c'est quelque chose qui circule et je laisse Kiki continuer.
Oui, je voulais. Juste rajouter aussi une chose. La totalité des 35 émissions, elles sont sur un site extraordinaire que Claire, tu as créé, qui s'appelle Clit 007. Il y a les 35 émissions et il y a en lien le magazine Clit 007, il y a tous les numéros aussi. Donc là, vous vous replongez totalement dans ces années-là et vous avez à la fois le son et puis l'image avec ce magazine, enfin, qui est un fanzine, mais enfin, il y a énormément d'informations, c'est très très bien fait. Et puis les 35 émissions, donc merci à Claire aussi d'avoir réalisé ce travail de numérisation.
Vous arrivez sur émission, vous sautez le journal, et puis vous avez toutes les radios que 35 à 7, quoi.
Mais c'est très très bien fait, vous verrez, c'est passionnant. Dès qu'on commence, on peut plus s'arrêter. Donc ça, je vous conseille. Et puis aussi tous ces numéros de Clit 007, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc faites les deux. Et puis vous venez à l'estime aussi au bar, et puis vous contribuez à créer de nouvelles archives. Voilà.
Merci. Si vous arrivez juste à éteindre le micro, si ça vous... ou alors le donner à Pauline directement, parce que c'est à Pauline que s'adresse cette dernière question avant qu'on passe aux questions du public. Le temps file. Isabelle, tu parlais de se replonger dans les mobilisations, et c'est exactement ce que tu as fait, Pauline, en travaillant sur l'affaire de Prénaville, que tu vas nous raconter rapidement ici. Et donc, ma question, c'était comment est-ce que l'archive t'a permis de convoquer une histoire féministe qui a finalement de la peine à se transmettre, parfois, d'une génération à l'autre? Est-ce que tu peux du coup nous raconter le dispositif que Pao et toi et Marine avaient mis en place pour le podcast et qu'est-ce qui a motivé ce choix, s'il te plaît?
Merci. Je voulais un peu commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est cette affaire de Prénaville sur laquelle du coup on a construit le podcast qu'on a fait. L'affaire de Prénaville, c'est une affaire de viol dans un squat en 1981 à Genève, dans le squat de Prénaville. Et autour de cette affaire, il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont eu lieu à Genève, entre 1981 et 1983, qui ont été, ça a été à peu près la durée de la procédure juridique. Et c'est des mobilisations qui ont été portées par le mouvement squat, par les mouvements de quartier et par les mouvements féministes. Et c'est notamment pendant ces mobilisations, pendant ces années-là, qu'il y a le comité contre le viol qui s'est créé, qui a petit à petit donné lieu à Viol Secours, qui est une association qui existe encore aujourd'hui. J'estime que c'est une mobilisation, on estime que c'est une mobilisation assez importante pour le contexte genevois. Ça a été la première fois qu'il y a une mobilisation à Genève contre les violences sexuelles a eu une telle ampleur. C'est beaucoup apparu dans les médias et ça a permis de porter un discours sur les questions des violences sexuelles qui n'avaient pas eu autant d'ampleur avant à Genève. Donc nous, on a construit un peu ce podcast autour pour parler un peu de ces mobilisations-là. Et du coup, on s'est basé sur deux émissions de Radio Pleine Lune. La première qui date du 2 décembre 1981 et qui est vraiment dans les toutes premières émissions diffusées sur les ondes. Et qui est une émission qui donne la parole aux deux femmes qui ont été victimes de ces viols. Et la deuxième émission sur laquelle on s'est basé, c'est une émission du 16 juin 1982 et qui donne la parole à des militantes du comité contre le viol. Et du coup, en parlant un petit peu autour de nous, de ces mobilisations, autour des personnes des féministes qui ont à peu près notre âge, on s'est rendu compte que c'était une mobilisation dont assez peu de gens avaient entendu parler, assez peu de gens de nos générations, on va dire. Et on s'est un peu posé la question comment ça se fait que la mémoire de ces luttes-là, il y a eu un moment donné où elle est assez peu passée. Et du coup, on a estimé que c'était intéressant de revenir un peu sur ces questions-là. Et notamment, on a voulu rechercher un peu certaines des militantes qui s'étaient mobilisées autour de cette affaire-là et dans le comité contre le viol. Aussi pour, dans toute cette réflexion, de voir comment on peut peut-être renforcer les liens entre différentes générations. Et du coup, on a enregistré une première discussion avec différentes militantes actives dans les années 80 pour revenir un peu sur comment elles percevaient leur engagement là-dedans, comment elles percevaient cette mobilisation et les impacts que ça a eu à Genève. Et on a ensuite fait une deuxième discussion avec des militantes qui étaient un peu trop jeunes pour avoir pu se mobiliser dans les années 80. Et justement pour réfléchir à comment cette histoire elle nous est parvenue, comment ces mobilisations elles nous sont parvenues. Et est-ce qu'il y a eu des ruptures, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces mobilisations et est-ce qu'il y a eu des continuités aussi. Donc voilà, c'est à partir un peu de tout ça, de tous ces matériaux-là qu'on a mis en place un podcast. Et du coup, on a un petit peu dû arranger tous les différents niveaux, donc deux discussions, des archives de Radio Pleine Lune et aussi des commentaires qu'on a dû faire pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on était en train de faire avec tout ça. Voilà, et puis peut-être pour revenir un peu sur la première question que tu m'as posée concernant les archives et comment les archives elles peuvent jouer un rôle dans la transmission des mémoires féministes et des mémoires des luttes. Il nous semble que c'est particulièrement important d'avoir ces archives-là, aussi dans un contexte où le féminisme s'est beaucoup popularisé. Il y a de plus en plus de féministes, il semblerait. Et notamment autour de la question des violences sexuelles, par exemple à Genève avec le 14 juin 2019, il nous semble que c'est un moment où ces questions-là, elles ont pu être portées plus largement et aussi que c'est des discours qui semblent plus acceptables. Et dans tout ça, on a l'impression que sans le savoir, on hérite vraiment des pratiques et des réflexions des féministes qui se mobilisaient dans les années 70-80. Mais que c'est des choses vraiment qu'on se rend pas forcément compte. En fait, quand on commence à militer, on voit pas tout l'héritage qu'on a en fait de ces mouvements-là et de ces féminismes-là. Et pour donner un peu des exemples, les pratiques de mixité choisie, c'est des choses qu'on n'a pas du tout inventées en 2020. Et ce qui nous a particulièrement intéressé autour de cette affaire, c'était aussi tous les discours anticarcéraux qui étaient vraiment très forts et très présents, en tout cas dans les émissions de Radio Pleine Lune. Donc voilà, pourquoi la radio aussi, c'est quelque chose de particulièrement intéressant là-dedans. Pour nous, c'était assez fort de d'un coup entendre, c'est des choses qui ont déjà été dites, mais de d'un coup entendre aussi la spontanéité de la parole des personnes qui sont enregistrées dans ces émissions. Et notamment les émissions sur lesquelles on s'est basé, comme elles sont très très au début, la parole elle est vraiment libre. Les débats en fait ils ont lieu en live, on suit les débats, les réflexions, les contradictions en même temps que les personnes qui parlent. Et du coup c'est particulièrement intéressant en fait de voir comment toute la pensée féministe elle se construit aussi au sein de ces émissions. Et du coup ça nous permet aussi nous de repasser par les mêmes cheminements et d'apprendre un peu des cheminements qui ont eu lieu à ces moments-là. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là.
Alors, on est au moment où le public peut poser des questions, si vous voulez. Je vais juste regarder l'heure, mais je pense qu'on a une demi-heure devant nous, à peu près. Donc, voilà, si vous voulez, ben je peux vous passer le micro s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une remarque, une question, un commentaire, raconter une histoire en lien avec tout ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie à toutes d'avoir fait vos présentations et vous susciter des questionnements en moi. Il y a notamment un en particulier, c'est celui qui concerne les archives par rapport à l'œuvre révolutionnaire. Donc on a entendu parler des archives qui se numérisent, qui se gardent, des archives dont on prend soin. Quelle est l'idée que le love révolutionnaire a là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà une réflexion là-dessus ou pas encore, ou c'est trop tôt, ou les positions divergent? Voilà ma question. Merci.
Je peux peut-être donner un élément de réponse, mais je crois que je n'ai pas la réponse. Mais justement, je pense qu'on est aussi une radio qui est jeune, elle a que 2 ans, et que peut-être que je me trompe, mais j'étais pas là au tout début, mais j'ai l'impression que c'est l'archive, c'était pas la question. Enfin, la question de l'archive, je crois pas que c'était la question qui s'est posée au début, et je crois que c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps, notamment par la post-production, le fait de mettre en ligne aussi ces émissions qui étaient live au bout d'un moment. Et je crois que ça a réitéré l'importance de l'archive par en fait ce projet-là, et voilà. Mais je sais pas ce que.
Peut-être, enfin, ça s'est fait un peu dès le début puisque c'était des podcasts. Du coup, tout de suite, ça a été mis en ligne sur le Mixcloud donc de Radio 40. Et puis après, quand on est passé live, il y avait toute la question de plutôt les problèmes techniques des enregistrements. Du coup, on a perdu plusieurs émissions. Par vol de carte SD, par bug d'enregistrement sur le Zoom, par des choses comme ça. Et à chaque fois, faut un peu lâcher prise, mais c'est pas évident de perdre les voix des personnes qu'on avait rassemblées là. Et jusqu'à d'ailleurs l'émission du 2 mars où on a perdu tout le début. Et du coup, on a refait l'interview avec Viviane, on réenregistre des choses pour faire produire un podcast à la fin. Et voilà.
Est-ce qu'il y aura d'autres questions? T'es en train de lever la main? Non. Moi, je voulais juste ajouter un commentaire à ce propos-là, c'est que, en fait, Viviane, tu nous as donné 300 cassettes, mais ça représente surtout les premières années, en fait, de Radio Pleine Lune. Donc, il nous manque une grande, 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 grande partie des archives. Et donc, c'est aussi une histoire avec plein de trous. Et d'ailleurs, si jamais vous conservez des archives chez vous, n'hésitez pas à nous le dire. On est tout à fait intéressés à les récupérer. Mais oui, c'est vrai que c'est des histoires qui se transmettent grâce à la conscience de certaines militantes qui décident d'entasser du matériel chez elles pendant des dizaines d'années parfois, et puis qui, lors d'un déménagement, lors de malencontreusement d'un décès, X ou Y moment, décident de faire don de leurs archives à un centre. Et ça n'arrive pas toujours.
En vous entendant tout à l'heure parler de votre nouvelle radio, il y a une chose qui était aussi fondamentale pour nous que vous avez dit, c'est le temps. Je crois qu'à Onde Femme, ce qu'il y avait de magique, c'est qu'on n'avait pas une minute trente ou deux minutes quinze comme l'institution radiophonique donne aux personnes qui veulent parler. On pouvait parler tout ce qu'on voulait, on pouvait décider de faire trois émissions si on avait envie sur le même sujet. Et ça, pour nous, c'était fondamental, parce que pour transmettre la parole des femmes qu'on avait rencontrées ou pour dire ce qu'on avait à dire, le temps était nécessaire. Il fallait, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, les médias, entre guillemets, traditionnels et institutionnels n'ont pas changé, c'est même de pire en pire, je crois. Et donc, de jouer sur le temps, de pouvoir utiliser le temps comme on veut, dans un média, une radio, comme vous continuez à la faire et comme nous, on l'a fait avant, c'est fondamental. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et la forme, vous insistiez sur la forme, le drôle, etc. Je crois qu'on a été plus ou moins drôle, on est chacune plus ou moins drôle, parce que ça dépend. Mais je sais que moi, d'entendre Viviane faire ses infos avec le regard des femmes, ça me faisait toujours beaucoup rire, même si c'était très sérieux. Mais il y avait un regard sur l'actualité qui était tellement différent de ce qu'on entendait d'habitude. Ou quand elle délivrait chaque semaine son cochon au mec qui s'était conduit le plus mal dans l'actualité. C'est très, très, tellement important d'avoir ce regard, cette forme différente. Hein, ça, c'est sûr. Et moi, qui ai un peu touché après, qui suis allée un peu dans l'institution, ben, je peux vous dire que j'ai senti la différence. Hein, et que de pas être confronté ni à la compétition, celle qui parle le mieux, celle qui est le mieux, celle qui a le plus de charisme, celle qui peut enfin, c'est ce qui existe dans l'institution, c'est évident, ce qui est heureusement pas, en tout cas nous on l'a jamais vécu, je suppose que vous le vivez pas non plus, même si vous avez besoin de vous cacher derrière des pseudos, le manque de, il y a pas de hiérarchie, chacun peut décider ce qu'elle veut, peut proposer ce qu'elle veut, c'est tellement fondamental quand on veut donner la parole ou la prendre. Les deux, parce qu'on voulait la donner, mais on voulait aussi la prendre, bien évidemment. Parce qu'on participait nous-mêmes aussi aux luttes, donc on avait aussi envie de dire nous quelque chose. Hein, ça, je pense que, pour moi, c'est tellement semblable ce que vous faites et ce qu'on a eu fait, parce que c'est, à mon avis, fondamental. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de poser une question ?
Merci beaucoup. J'ai une question, mais je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre et qui pourra répondre. Concernant l'auditorat de ces émissions, j'aimerais savoir si vous avez des indications sur qui écoutait ces émissions à l'époque, si c'était vraiment le tout venant ou si c'était plutôt les gens de votre réseau. Et en fait, j'ai un peu la même question pour les émissions actuelles, si vous arrivez à avoir des indications sur qui vous écoute et quel public vous touchez. Et alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi ce que vous avez comme retour. Je ne sais pas si vous avez des adresses mail sur lesquelles on vous contacte ou des numéros de téléphone sur lesquels les auditeurs et auditrices peuvent appeler. Mais ça me rend un peu curieuse de savoir si vous arrivez un peu à palper ça ou si vous arriviez à le faire dans les années 80.
Donc, je vais répondre pour la radio qui passe dans un poste, hein. On n'avait aucune idée effectivement de qui pouvait écouter, de combien de gens écoutaient. Par contre, la radio, il y a la force de la radio, c'est qu'on peut tomber dessus par hasard. Voilà, on ne doit pas aller sur un site internet qu'on connaît. Voilà, c'était les radios avec les petits boutons là. Voilà, dans la voiture, on pouvait tourner les petits boutons et on tombait sur Onde Femme ou plus largement sur Radio Zone. Donc, ça va arriver. Mais on savait, il y avait des gens qui nous disaient « Ah, je t'ai entendu », etc. Mais sinon, on ne savait pas. Et finalement, ce n'était pas tellement important. Parce que l'idée, c'était, j'en ai déjà parlé, c'était de dire « On lance des cailloux dans la mare et puis ça fait des vagues ». Voilà. Et c'est ça, je pense, qu'on a provoqué, induit. Et ça a eu des effets à la fois indirect, par exemple sur les radios officielles, elles ont beaucoup changé à travers les radios libres en termes de manière de faire, d'oralité, de réguler la radio, des voix différentes, etc. Donc ça a eu un effet Mais nous, on ne pouvait pas savoir exactement combien de gens. Alors, il y a eu quelques téléphones, mais c'était uniquement quand on parlait de sexe, quoi.
Bon, nous, on a, ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est que peu importe le moyen, il y a des problèmes techniques. Hein, même la modernité des moyens d'aujourd'hui, vous n'échappez pas à la technique. Et nous, on a souvent eu des problèmes techniques, il faut bien voir ce qu'il y a. Et ça a eu de l'influence sur l'auditorat, comme vous dites, parce que je me rappelle d'une fois, on avait fait tout un dossier, comme je disais, cause toujours tu m'intéresses, avec des femmes actives dans le quartier des Eaux-Vives. Et au moment de l'émission, il y a un téléphone, « On vous entend pas, qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, Radiozone avait une antenne dans un trou et malheureusement, on n'entendait pas. Dans le quartier des Eaux-Vives, il a fallu qu'on ait enfin une antenne sur le Salève pour que désormais tout Genève entende Radiozone. Donc ça, c'est le problème de la radio, effectivement. Puis les téléphones, c'est vrai que des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Mais quand même, je crois que, comme tu dis, les vagues, le caillou et les vagues, petit à petit, chacune savait que si elle pouvait nous proposer un sujet, qu'elle pouvait nous dire quelque chose. Et petit à petit, le mot a passé. Hein, et quand on demandait à quelqu'une, tu veux bien faire un sujet sur ça, tu vois, quand, comme Viviane disait, on ne nous a jamais refusé, mais parce que petit à petit, on a entendu parler de nous. Hein, et de donner la parole, des fois même à des femmes très connues, ben, ça leur plaisait de se dire qu'elles allaient parler à un réseau de femmes qui écoutaient cette radio, même si on ne pouvait pas leur dire on a X milliers d'auditrices.
Ben, effectivement, du coup, tu parlais des bugs techniques et des gens qui appellent. Nous, sur le site de Radio 40, ce qui nous permet aussi de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a un chat, et du coup, là, il y a des gens qui nous disent « Ah, telle personne, on l'entend pas bien, là, ça grésille, la connexion Internet a coupé », parce que du coup, bah, comme ça passe par Internet, il faut qu'on ait une bonne connexion. Et du coup, le chat, ça fait un peu le suivi live de nos bugs techniques, ou du love envoyé par les auditoristes que l'on connaît souvent. Et puis pour le nombre de personnes, ben au début sur le site de Radio 40, comme enfin il y avait le nombre de personnes qui écoutaient, qui était affiché. Et puis au début de Radio 40, c'était donc pendant le confinement, donc les gens étaient chez eux et puis il y avait pas mal de monde, tout le monde était face à voilà Internet, à son ordinateur ou à ses enceintes. Et puis, au fur et à mesure que les gens sont ressortis de chez eux, ben, y avait de moins en moins d'auditoristes. Et du coup, Radio 40 a fini par enlever ce chiffre qui pouvait risquer d'être trop décevant.
Mais je crois que Agathe, tu nous avais dit qu'en 2021, on avait fait un peu un boom pendant la semaine des luttes féministes parce que vous avez accès aux auditoristes, non ? Voilà, du coup, je tiens à le souligner quand même. Ça marche parfois.
Ouais, j'ai quelque chose à dire pas très compliqué. Voilà. Sur ce qu'on a fait dans la radio, Radio Pleine Lune. C'est-à-dire que c'est un souvenir qu'on a toutes. C'est un souvenir où on a énormément bossé au début. On a bossé, on a préparé les réunions. J'écrivais des textes avant de... Pas parce que je ne pouvais pas parler dans le micro, mais parce qu'il fallait trouver ce qu'on allait dire, etc. Donc on a... Et puis, je ne sais plus le temps entre une fois et une autre. Combien c'était ? C'était chaque semaine. Ben donc, c'était un travail. Hein. Moi, à la maison, j'ai des tonnes de papiers où on voit tout ce qu'on a travaillé. Pour la musique aussi, on était plusieurs. Hein. Donc, il y avait une qui était plus Marie, je ne sais plus comment ça va. Bon, une qui s'occupait beaucoup plus de la musique, mais la musique était très importante. Et puis les instruments, les tournevis, les tourne-tours, parce qu'on faisait tourner. Puis après, il fallait apprendre à la technique. Donc on a et puis on allait en voiture jusqu'à l'autre côté de Gex, hein. On était tout loin sur une colline pour ne pas parler de quand on était comment on appelle ça, on était pirates, voilà. Il y avait un groupe pirate dans les forêts, on allait avec des... On vous a déjà raconté ça, voilà. Vous connaissez déjà. Voilà, je ne vais pas recommencer ces histoires-là, mais c'était effectivement, il y en avait celles qui étaient plus poussées sur une chose, l'autre pour une autre. Moi, j'ai encore chez moi, mais des kilos de papier où on prenait notes, où on réfléchissait.
Oui, ça nous renseigne sur la culture matérielle aussi et la culture, enfin les documents. Voilà, tous les documents qui constituent. Parce que c'est pas que les archives sonores numérisées, c'est aussi beaucoup de papiers qui renseignent sur la façon dont les émissions étaient faites. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose ? Isabelle, tu veux y aller ? Ouais ? Ok.
J'ai l'impression qu'il y avait aussi des choses qui circulaient, alors par rapport aussi au. À la musique. Nous, on s'est régalé en fait des choix musicaux de la Dream Team de Claire. Et puis, ça a fait écho aussi à ce qui se passait au niveau des balles des chats sauvages, qui se passait dans différents espaces lesbiens à Genève. Et donc, ça circulait aussi entre ces paroles, ces dance floors, ces bars, et puis les ondes. Donc, effectivement, qui était où et quoi, difficile à savoir, mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de choses communes. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, dans les pratiques, on a, il y a aussi des podcasts à l'estime. On a notre DJ Lap, Lorena, qui fait aussi, qui revient sur ces histoires de chansons en faisant un clin d'œil à ce livre lesbien, Les Dessous de la chanson, et en justement nous transmettant ces histoires via les chansons. Et j'ai trouvé vraiment que dans Radio Canicule, il y avait vraiment cette dimension de faire du lien entre ce qui était dansé pendant les balles des chats sauvages, ce qui était écouté dans les cuisines, ce qui était écouté ailleurs dans les champs, bref, et dans les postes des voitures.
Et merci beaucoup à Géraldine et Carolina encore une fois. Merci.
Vous venez donc d'écouter l'épisode 5 de la série Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures, une série de valorisation des archives de Radio Pleine Lune, une émission féministe qui a émis tous les mercredis sur les ondes de Radio Zone en Suisse entre 1981 et 1999. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder sur le site archivescontestataires.ch. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de Voral.